Mais pour la une en Israël, on va se diriger vers le front nord, notamment vers le Liban, le sud Liban et la frontière israélienne, où le Hezbollah a déployé une nouvelle arme qui menace les forces israéliennes et une arme qui apparemment suscite les plus grosses craintes du côté de Tsahal. Et pour en parler ce matin, eh bien, qui d'autre que l'ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, qui est Raphaël Jérusalmi, qui nous fait le plaisir, comme d'habitude, d'avoir répondu présent à notre invitation. Lise, je vous laisse parler de cela avec lui, bien entendu.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Raphaël, nouvelle violation du cessez-le-feu par le Hezbollah cette nuit. Des obus de mortier lancés contre les forces israéliennes. Ces derniers jours, il y a eu pas mal de drones explosifs. Comment est la situation au sud Liban?
La situation est très dangereuse pour le nord du pays et surtout pour les soldats de Tsahal, dans la mesure où un soi-disant cessez-le-feu imposé par les Américains empêche l'armée israélienne de faire son travail comme elle désirerait le faire. D'un autre côté, grâce à des infractions du Hezbollah, la riposte est possible. Et aujourd'hui, on constate que Tsahal frappe même en nord de la rivière Litani, à l'intérieur profondément du Liban, et que de toute façon, tôt ou tard, il faudra reprendre les combats de façon beaucoup plus intensive et qu'il n'y aura pas d'autre choix, comme c'est le cas pour le Hamas, même si on n'y arrive pas toujours jusqu'au bout, de continuer à se battre et se défendre contre ces menaces.
Alors, on voulait parler avec vous, hein, Raphaël, de ces armes qui font partie du quotidien de la guerre en Ukraine, mais qu'on voit depuis peu de temps au Liban. C'est les drones à fibre optique qui sont utilisés par le Hezbollah contre Israël. Est-ce que c'est compliqué, visiblement, de les détecter, de les arrêter? Expliquez-nous.
Oui, alors, étonnamment, c'est toujours plus compliqué d'avoir affaire à des projectiles ou des équipements plutôt primitif que parfois des équipements beaucoup plus sophistiqués. Il pourrait être plus difficile de trouver une solution à ce problème que de développer un missile anti-aérien contre des missiles balistiques. Et la raison en est très simple, c'est qu'aujourd'hui, la technologie se base sur les signatures que laissent les équipements, que ça soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Et si vous arrivez à avoir des équipements, c'est pour ça qu'on a créé par exemple le F-35, il laisse peu ou pas de signatures, vous allez avoir du mal à les repérer et encore plus à les intercepter, surtout lorsqu'il s'agit d'équipements petits et qui volent à basse altitude. C'est le cas donc de ces drones qui ont pour avantage de n'avoir aucune signature électronique, c'est-à-dire ils n'ont pas de GPS, ils n'ont rien par quoi on peut véritablement les repérer. Puisqu'il y a entre le drone et celui qui le manipule une fibre optique qui permet, avec des lunettes que le manipulateur porte sur lui, de suivre le déplacement du drone et de le télécommander sans passer donc par toute l'électronique qui pourrait le faire repérer.
Alors, si j'ai bien compris le fonctionnement, il y a quelqu'un qui pilote l'engin avec des lunettes de réalité virtuelle et il est relié en fait au drone avec un câble de fibre optique qui fait plusieurs kilomètres. Et j'ai lu en fait, Raphaël, expliquez-nous si c'est possible, qu'en Ukraine, ils arrivaient à force d'habitude à couper en fait les câbles de fibre optique, ce qui permettait ensuite de détourner le drone vers une autre cible. On peut faire ça?
Oui, une sorte de câble virtuel, mais à ce moment-là, il y a une certaine perte de contrôle et la nécessité d'avoir là de l'électronique. Mais si on fait ça évidemment au dernier moment, il est de toute façon trop tard. Si on active, de la GPS par exemple, on ne l'active qu'au dernier moment lorsqu'on s'approche d'une cible, il est trop tard pour pouvoir la repérer et l'intercepter. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que ces drones sont extrêmement bon marché, faciles à produire, et que les Ukrainiens ont produisent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers par mois. C'est-à-dire, c'est une production extrêmement facile, et on peut en produire des essaims, des cohortes entières qu'on peut lâcher. C'est ce que font d'ailleurs les Ukrainiens sur les Russes. C'est un matériel donc que le Hezbollah lui se produit aussi, se procure aussi très facilement. Certains de ces drones, vous pouvez en acheter sur Internet, hein, tout simplement, vous les faire livrer. Donc c'est à ce point-là facile, soit à produire, soit à se procurer, et difficile à traiter. Mais n'oublions pas que à chaque fois, nos ennemis, Hamas, Hezbollah ou Iran, trouvent quelque chose de plus ou moins inédit qui oblige Tsahal à chercher des solutions. Que Tsahal trouve, on a trouvé des solutions pour les tunnels, on a trouvé des solutions pour les cerfs-volants incendiaires. On finira par trouver la solution à cela également.
Alors justement, en termes de solutions, pour l'instant, la seule chose qu'on a trouvée, si je me trompe pas, Raphaël, c'est des barrières physiques comme des filets pour que le drone tombe dedans, ou c'est cibler les opérateurs du drone.
Alors oui, il y a quand même une société qui s'appelle SkyPro, une société privée israélienne, qui prétend elle, avoir au stade de pilote développé un drone qui est susceptible de s'attaquer à ce drone-là. À ce genre de drone-là, c'est un drone qui se positionnerait en même temps que le drone qui attaque et le dévierait de sa route. C'est donc pas un drone qui va se neutraliser, mais un drone qui va dévier avec un contact physique en fin de compte. Ça, c'est la société SkyPro. Les Israéliens en reprochent peut-être avec justesse à Tsahal de ne pas avoir suffisamment prévu le coup et ne pas s'être plus penché sur le problème alors qu'il existait déjà quand même depuis un an ou deux. Et on a réactivé, parce que le véritable problème, c'est que par rapport à ce genre de munitions, on avait développé une défense pour des infrastructures, pour défendre des entrepôts, pour défendre des bases militaires. Et on n'avait pas songé à ce que on devait utiliser pour défendre des troupes qui se déplacent. Donc là, il faut améliorer ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, c'est le système Vulcan, qui a donc été développé déjà en 2024 pour protéger les installations militaires. Et puis on a réactivé une unité, l'unité Chaparral, qui était une unité qui avait été créée à l'époque au début des drones pour éliminer les drones de façon physique en tirant dessus. Le Vulcan, c'est aussi un système qui tire sur le drone tout simplement avec des balles.
Alors c'est important parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit Raphaël, ça coûte pas cher. Le Hezbollah, on importe plein depuis la Chine ou l'Iran, rajoute des explosifs dedans et après ça part. Alors l'édito du jour de ce matin, Raphaël, que je lisais dans le Jérusalem Post, il va pas vous étonner, mais il expliquait qu'Israël n'a pas d'autre choix pour sécuriser le Nord que d'éliminer le Hezbollah. Et donc évidemment, le cessez-le-feu actuel n'aide pas à aller dans ce sens, mais ça fait un moment que vous le dites, Raphaël, que Israël n'aura pas le choix et devra de toute façon reprendre le combat jusqu'à, si possible, véritablement, soit l'extinction du Hezbollah, soit le fait de les tenir le plus éloignés possible de la frontière israélienne.
Oui, c'est embêtant, mais d'un autre côté, moi j'appelle ça une chance dans notre malchance. La chance dans notre malchance, c'est que le Hamas, le Hezbollah, mais même l'Iran, les Mollahs, les gardiens de la révolution, sont des fanatiques. Ils s'obstinent, ils s'entêtent, ils ne veulent jamais concéder la défaite. Et de ce fait, ils nous obligent, mais peut-être que ça nous rendra un service à long terme, à aller jusqu'au bout, à véritablement envisager une destruction la plus totale possible de ces factions terroristes. Alors les gens aiment bien sur les plateaux très intelligents des télés parler de dire qu'on ne peut pas détruire une idéologie, que le Hamas et le Hezbollah pourront toujours exister ailleurs, etc., etc. On est très content qu'ils aillent se faire pendre ailleurs, d'ailleurs. Mais ce qu'on peut éliminer, c'est quand même une puissance militaire, une force physique et militaire de factions terroristes. Et ça, c'est dû au fait que, comme je l'ai dit, il s'obstine. Vous voyez que le Hezbollah, face à la détermination claire et nette de Tsahal, avec même la possibilité que le gouvernement libanais, même si timidement, laisse les Israéliens faire, continue à attaquer, continue de façon suicidaire, la même chose pour les Iraniens, à s'en prendre à des armées beaucoup plus fortes. Et c'est cette obstination, ce fanatisme qui fait qu'ils n'admettront jamais la défaite et qu'il faut donc les éliminer absolument physiquement.
Donc vous ne pensez pas que cette pause stratégique un peu imposée par les États-Unis, elle sert uniquement le Hezbollah? Vous pensez qu'elle sert aussi Israël, Raphaël?
Elle sert Israël dans la mesure où... non, elle ne sert pas Israël. La pause stratégique, elle, est néfaste. Pardon, c'est absolument une catastrophe. Oui. D'abord d'avoir lié ce qui se passe entre Israël et Hezbollah à ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, c'est une erreur absolument catastrophique, c'est absolument injustifié, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Il y a un soutien iranien au Hezbollah, ok, mais ça s'arrête là. Le Hezbollah est une menace aux portes de l'État d'Israël que l'État d'Israël doit traiter comme tel. Rien à voir avec les Iraniens. Et donc ce cessez-le-feu, c'est une mauvaise chose pour les Israéliens, certainement, bien que là, il y a quand même la possibilité de donner sa chance à la voie diplomatique, c'est-à-dire en cessant le feu, on dit à Beyrouth, au gouvernement libanais, regardez, nous sommes prêts à calmer le jeu, si vous entrez dans la danse et faites votre travail, alors que par rapport à l'Iran, le cessez-le-feu de Donald Trump face aux Iraniens, c'est une des catastrophes stratégiques, je crois, les plus terribles dont je puis me remémorer dans l'histoire militaire. Et il a fait la plus grosse bourde possible imaginable d'avoir interrompu l'élan de son immense armée, vraiment en pleine attaque, et de laisser le temps à l'ennemi de se regrouper, de se redéployer, sans obtenir rien du tout en échange. En plus, qu'il a abandonné son objectif de départ. Donc on est dans la catastrophe complète, l'erreur stratégique complète des Américains, inclus, si je peux me permettre de continuer et de terminer, sur le détroit d'Ormuz, où hier, au lieu de commencer frileusement et à tâtons à chatouiller l'ennemi, il fallait commencer, si on était sérieux, les Américains, donc par une frappe extrêmement puissante, comme ça a été le cas au mois de juin et comme ça a été le cas au début, enfin la fin du mois de février, commencer, si on voulait délibérer soi-disant le détroit d'Ormuz, par frapper très fort, car aujourd'hui les Américains ont laissé sur les côtes du détroit d'Ormuz, les côtes iraniennes, des missiles qui menacent aujourd'hui leurs navires.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi d'avoir été avec nous pour cette analyse ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivain et ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Bonne journée à vous, à très vite.